Sam Bensta, votre animateur au microphone pour la prochaine heure. Et cette semaine, comme vous le savez, Universitaire en action reste pour tout l'été, mais le format change puisque nous allons parler de différents sports et non seulement de sport universitaire, puisque vous le savez, le sport universitaire en été prend une grande pause. Donc voilà, cette semaine au menu, on va y aller avec Napoli en Italie puisqu'ils sont champions italiens. Mesdames et messieurs, Naples est champion d'Italie, on va en parler. Naples, c'est un club du sud de l'Italie, puis on le sait très bien que les clubs du sud de l'Italie n'ont pas souvent été champions. C'est arrivé combien de fois? Eh bien, on va vous en parler tout à l'heure. Également, il y a une finale de Coupe du Roi espagnol. Le Real Madrid est champion. Ils ont battu Osasuna 2-1. On va en parler, puis on va donner aussi un petit historique sur cette compétition de Coupe espagnole. Également, CF Montréal, ça va de soi, parce que le CF Montréal était en action hier, bien sûr, au stade Saputo.
Allô?
Et pour terminer le tout, on va parler un peu du repêchage de la Ligue canadienne de football, puisque c'était cette semaine. D'ailleurs, on va commencer l'émission avec ça, en plus de quelques matchs à venir, de quelques actualités concernant les playoffs du côté de la LHJMQ. Et on a aussi des séries éliminatoires en NBA et dans la Ligue nationale de hockey. Avec au menu aujourd'hui, spécialement, une chanson italienne venue du sud de Napoli, donc de la région de Naples, avec Ma Quale Diet. On va mettre ça pour rendre hommage au Napoli qui a été champion italien plus tôt cette semaine. Également, score de dimanche matin à date, ben, l'Atalanta a perdu 2-0 à domicile contre la Juventus. La Juventus qui est un très grand club en Italie, un club du nord de l'Italie avec des buts de Vlahovic et Iling Junior qui est un tout jeune joueur espoir anglais. Et sinon, Monaco a battu Angers 2-1 à l'extérieur. Matchs qui sont à l'heure actuelle, ça vient de commencer, là, c'est 0-0. On a Torino-Monza, on a Ajaccio-Toulouse, Auxerre-Clermont-Foot et Lorient contre le stade de Brest. On va en parler là, quand il y aura des buts, on vous mentionnera le tout. Donc pour commencer l'émission, on va vous parler de... Bien sûr, du draft, du repêchage de la CFL. Ça s'est passé cette semaine à Toronto. Puis les quatre conférences du sport canadien de U-Sport avaient comme possibilité d'avoir des joueurs, des représentants repêchés. Et c'est ce qui est arrivé. On a eu 23 joueurs du côté de U-Sport Ontario qui ont été repêchés dans la Ligue canadienne de football. 17 pour l'ouest du pays, 9 pour les provinces de l'Atlantique et 8 pour le RSEQ. Ça m'étonne un peu, mais bon, c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins... d'équipe que dans d'autres régions, mais on a eu seulement 8 joueurs repêchés côté RSEQ. Mais ce qui est intéressant, c'est que le deuxième choix overall du repêchage a été Michael Broderick, un secondaire, 6 pieds 3, 222 livres, et il jouait avec les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, on le félicite pour avoir été repêché hier par Edmonton, les Edmonton Elks. Vous savez, Edmonton, avant, ça s'appelait les Eskimos, mais ils ont changé le nom par rapport bon au nom... Bon, vous le savez, là, le mouvement qui fait en sorte qu'on peut plus nécessairement appeler des équipes par des certains noms, comme par exemple les Indians de Cleveland aussi, ils ont changé de nom. Washington également, ils ont changé de nom. Les Washington Redskins s'appellent maintenant les Washington Commanders. Donc, c'est simplement pour vous informer qu'ils ont changé de nom. Avant, c'était les Eskimos d'Edmonton et aujourd'hui, c'est les Edmonton Elks. Pardon. Je ne ferai aucun commentaire sur le sujet, bien sûr. Et premier choix total, ça a été Dante Bull, 6 pieds, 6 pouces, 324 livres. Lui, il vient de Fresno State en NCAA. Il y avait bien sûr la possibilité pour des joueurs des universités américaines d'être repêchés dans ce repêchage-là. Et ça a été le cas. Ils ont été repêchés et félicitations à eux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de joueurs canadiens qui ont été repêchés. 57 joueurs au total des universités canadiennes ont été repêchés et seulement 14 pour les collèges américains, là, pour National College Athletics Association, NCAA. Numéro 3, ça a été Lake Moore Corte. 4, Cole Tucker. Jonathan Sutherland, 5e. Lui, il vient de Penn State. Dayton Black, il a été repêché, il vient de la Saskatchewan. Et Lual Ugak, de Texas Christian. Donc voilà, ça fait du bien de voir. On va voir là, qu'est-ce qui va se passer côté les Canadiennes de football cette saison. C'est pas encore commencé. Je vais peut-être essayer d'avoir des petites accréditations pour aller suivre notre produit local, c'est-à-dire les Alouettes de Montréal au football américain cette saison. En termes d'universités qui ont été les plus représentées dans ce repêchage, on va vous dire ça à l'instant. Eh bien, ça a été Ottawa avec 5 sélections, ensuite St. Mary's avec 5, Western avec 5, Regina avec 4 joueurs repêchés, Saskatchewan avec 4, Université d'Alberta 3, Guelph 3, Montréal, les Carabins, 3 joueurs ont été repêchés, Queens 3, British Columbia 3, Laurier 2, l'Université Laval, Le Rouge et Or 2, Manitoba 2, McMaster 2, Mount Allison 2, l'Université Bishops qui joue maintenant dans la conférence des Maritimes. L'Université Bishops, c'est juste à côté de Sherbrooke. En fait, c'est pratiquement dans la même ville, là. Eh bien, ils ne jouent plus dans le RSEQ. Eux, ils jouent du côté des provinces de l'Atlantique. Calgary 1, Concordia 1, McGill 1, Le Verre et Or de l'Université de Sherbrooke 1, Saint-FX 1, Waterloo 1, Windsor 1 et York 1. 3 universités ont eu 0 joueurs repêchés, c'est bien Acadia, Carleton et Toronto. Les équipes de la Ligue canadienne de football qui ont eu le plus de choix de repêchage cette année, les Edmonton Elks avec 8, Ottawa Red Blacks avec 8. Ottawa, d'ailleurs, c'est eux qui ont eu le premier choix là, qu'on a mentionné tout à l'heure. Dante Bull de Fresno State. Blue Bombers de Winnipeg, 8. Calgary Stampeders, 7. Hamilton Tiger Cats, 6. BC Lions, 5. Les Alouettes de Montréal, 5. Saskatchewan, 5. Et Toronto, 5. Donc, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, nous avons 9 équipes dans la Ligue canadienne de football. Ça serait bien de mettre ça avec un petit chiffron avec 10. Là. Il doit y avoir d'autres équipes, peut-être, qui seraient intéressées d'avoir une équipe. Là, une. Par exemple, la ville de Québec. Bon, on sait, le Rouge et Or, là-bas, c'est ultra populaire, mais ils ont pas d'équipe de Ligue majeure. Là. C'est-à-dire, bien sûr, il y a pas de NBA, NFL, et puis non plus, il y a pas de baseball professionnel. Là, il y a les Capitales, mais je parle de la Ligue majeure de baseball. Et puis, il y a pas surtout la Ligue nationale, puisqu'ils ont les Remparts de Québec, qui est la meilleure foule de loin de toute la LHGMQ. Ils ont une moyenne environ, je crois, là, de 13 000 spectateurs. Donc, c'est énorme. Mais ils n'ont pas d'équipe. Ça serait peut-être bien d'avoir une petite équipe de la Ligue canadienne de football. Ils pourraient peut-être avoir d'autres équipes aussi. Là. Halifax, une équipe dans les Maritimes, en tout cas. Ça reste à voir, là, mais de ce que j'ai entendu, les finances de la Ligue canadienne de football, c'est pas les meilleures des ligues professionnelles au monde, bien entendu. Donc, maintenant, ça mettait fin à cette petite rubrique universitaire côté repêchage. Ça se passait du côté de Toronto. Puis félicitations encore une fois à Michael Broderick des Carabins de l'Université de Montréal qui maintenant, eh bien, a un futur, un potentiel de carrière avec les Elks de Edmonton au Manitoba. Pardon, pas au Manitoba, en Alberta. Là, je connais bien sûr ma géographie. Donc voilà, maintenant on y va, mesdames et messieurs, avec nul autre que le titre de champion du Napoli SSC, qui est une équipe du sud de l'Italie, dans la région de Campania, une ville où est-ce que ça bouge, une ville qui a une réputation moyenne, une ville que tu sois adores ou que tu détestes, la ville de Maradona, le géant du sud de l'Italie, la nourriture exceptionnelle de Naples et bien sûr le club de soccer de Napoli avec ses premiers titres dans les années 1980 avec un certain joueur, un des meilleurs de tous les temps, Diego Armando Maradona.
Pull up.
Qui est décédé il y a de ça quelques années et qui tellement a marqué cette ville du sud de l'Italie qu'ils ont renommé le stade San Paolo pour le stade Diego Armando Maradona. Une légende, mesdames et messieurs, du ballon. Et hier, en fait pas hier, cette semaine, quoi, c'était mercredi, jeudi, il y avait un match Udinese, club du nord de l'Italie qui recevait Napoli. Et ça s'est terminé 1-1. Et avec ça, Naples a été champion d'Italie. Envahissement de terrain des spectateurs. Célébration comme les gens de Naples savent le faire. De la passion, de l'amour, des chants. Une ville en ébullition. Et puis finalement, un titre de champion d'Italie revient comme il se doit, ou pas, dépendamment de ce que vous pensez, mais comme il se doit selon moi, pour représenter l'Italie au complet, eh bien, il revient au sud de l'Italie, mesdames et messieurs. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, c'est l'hymne de Napoli. Félicitations à Napoli, ils sont champions pour la troisième fois, chers auditeurs, chères auditrices. Ils l'ont gagné en 1987 et en 1990 avec, bien entendu, Diego Armando Maradona. Ils viennent de le gagner en 2023. Ils sont passés près de ça il y a quelques années. Ils ont fini deuxième quelques fois. Mais cette année, ils ont tout écrasé sur leur passage. Et quand je vous parle du sud versus le nord de l'Italie, c'est pas que je dis que le nord est moins bien ou quoi que ce soit, mais les clubs du nord ont très largement dominé le championnat italien. Et c'est seulement le deuxième club du sud qui gagne. Là, ils l'ont déjà gagné. Il y a le Cagliari qui l'ont gagné en 1970. C'est un club de Sardaigne, donc l'île qui est à l'ouest de l'Italie, en dessous de la Corse. Évidemment, vous cherchez des belles plages, vous allez là-bas. Un beau climat également. Puis sinon, Napoli, c'est tout. Donc, aucun club de la Sicile ne l'a gagné. Palermo, Catania, ils l'ont pas gagné. Salernitana, ils l'ont pas gagné. Tout ça, là, c'est-à-dire Pescara, ils l'ont pas gagné. C'est que des clubs du nord de l'Italie, sauf Naples, trois fois. Et, comme je l'ai mentionné, Cagliari. Et on va vous nommer maintenant ce que on va vous dire de ce dont je parle, et non pas ce dont je parle. La Juventus, champion 36 fois d'Italie. Le premier étant en 1905 et le dernier remonte à 2020. Donc, 36 fois, ils ont été champions d'Italie. Donc, c'est énorme. Le deuxième, Internazionale de Milan, ça, c'est 19 fois. Ils ont fini 16 fois deuxième. Juventus ont fini 20 fois deuxième, j'ai oublié de le mentionner. L'AC Milan, 19 fois champion, 16 fois deuxième. Genoa, 9 fois champion. Torino, ça c'est la même ville que Juventus, c'est à Turin, 7 fois champion. Bologne, le club qui appartient au même propriétaire que notre club à Montréal, que le CF Montréal, j'ai nommé le grand Joey Saputo. Et donc Torino, ils ont gagné, Bologne, ils ont gagné 7 fois le championnat. Le dernier remonte à 1964. Genoa aussi, le dernier, là, ça remonte à 1924. Torino, c'est 1976 le dernier. Donc ça fait quand même très longtemps que les plus petits clubs ont gagné un titre, si on veut. Pro Vercelli, ils l'ont gagné 7 fois, la dernière fois étant en 1922. Roma, l'AS Roma, là, ils l'ont gagné 3 fois seulement, comme le Napoli. Dernier titre remonte à 2001. Naples, je l'ai mentionné 3 fois. Lazio, ça c'est l'autre équipe de Rome, ils l'ont gagné 2 fois, dont la dernière fois en 2000. Fiorentina, 2 fois champion. 69 la dernière année. Casale est une fois en 1914. Novès est une fois en 1922. Cagliari, 1970. Hellas Verona, 1985. Et Sampdoria, en 1991. Ce qui fait en sorte que, mais comme vous l'avez vu, les champions d'Italie sont concentrés entre trois équipes. La Juventus, l'AC Milan et l'Inter de Milan. Et pour les autres clubs, il reste des miettes, sauf pour cette année. Napoli. Pise l'a jamais gagné, Parma l'a jamais gagné, Perugia l'a jamais gagné, Livorno l'a jamais gagné, et voilà. Donc ça, ça a été les champions d'Italie. Maintenant, quand on regarde la région, les régions dans laquelle les champions ont été, eh bien, il y a 43 champions qui ont été à Turin, 38 à Milan. Après ça, ça tombe à 10 à Gênes, 7 à Bologne, 7 à Vercelli, 5 à Rome, 3 à Naples. Parce que Naples aussi, il faut le spécifier, là. Rome, ils ont 2 équipes. Turin, ils ont 2 équipes. Milan, ils ont 2 équipes. Naples, c'est une ville grande, c'est une ville énorme et ils ont seulement une équipe. Et à Naples, si jamais vous allez visiter cette ville-là, je ne vais pas non plus vous dire que je l'ai déjà fait, mais ça s'en vient dans les mois qui viendront. C'est une ville qui respire le foot, qui respire le soccer. Il y a des dessins, des caricatures, des murailles de Diego Armando Maradona partout dans la ville. Il est super important pour cette ville-là. Et quand il est décédé, bien sûr, énormément de gens ont eu de la peine dans le monde, mais à Naples, c'était quelque chose. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Maradona a été une légende à Naples, c'est pas seulement pour son talent sur le terrain, pour le fait qu'il leur a permis de gagner 2 titres italiens de champion d'Italie pour la première fois, hein, pour Naples, et également une Coupe d'Europe, là, ce qui correspond aujourd'hui à la Europa League, la deuxième Coupe européenne en importance. C'est parce qu'également il a rendu fiers les gens de Naples, parce qu'il faut savoir que dans les années où est-ce que Maradona jouait, quand Naples se déplaçait dans le nord de l'Italie, principalement là à Atalanta, qui est une des villes, mais pas que là-bas, il y avait énormément de commentaires racistes envers les Italiens du sud. Ça disait par exemple allez-vous laver, des trucs comme ça. Donc c'est ça, c'était des, il y avait des chants, il y avait des pancartes. C'est pas l'époque aujourd'hui où est-ce que ça s'est calmé. Mais là, c'était très difficile. Les gens étaient très hostiles à l'équipe de Naples quand ils se déplaçaient. Et c'est pour ça également, Maradona les a remis à leur place, du moins au niveau du ballon, au niveau du terrain. Donc, félicitations encore une fois à Maradona. C'est le moment swag de cette émission, une légende du ballon. Et quand on regarde par région, le Piémont a 52 titres, la Lombardie en a 38, la Lombardie, ça c'est Milan, la Ligure en a 10, Emilia-Romagne a 7, Lazio, ça c'est Rome, 5, Campania en a 3, c'est Napoli, la Toscane a 2 titres avec Fiorentina, la Sardaigne 1 avec Cagliari, Veneto 1 avec le Hellas Verona. Voilà. Donc, vous regarderez, là, si jamais vous avez le temps, vous allez regarder sur une carte italienne, là, vous voyez que tous les champions ou presque sont dans le nord de l'Italie. Donc moi j'aime ça quand il y a de la diversité un peu, quand ça bouge, mesdames et messieurs. À l'heure actuelle, on va parler de cet effectif-là de Napoli. Cette année, Naples, ils ont eu plus de 15 points d'avance sur tous leurs autres rivaux, notamment la Lazio qui est deuxième. Et donc, c'est un champion avec style. C'est un champion qu'ils ont dominé outrageusement les autres clubs, notamment la Juventus, qui, c'est vrai, il s'est fait enlever 15 points pour des histoires. Là, je vais pas rentrer là-dedans. Ils leur ont redonné les 15 points à la Juventus, mais malgré ça, ils n'ont pas pu. Là, ils arrivent pas à la cheville de Napoli cette année. Pareil pour l'AC Milan, l'Inter Milan. Malheureusement pour Naples, ils se sont fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions contre l'AC Milan. Donc ça, c'est un peu leur déception. Mais je crois qu'ils prendront le titre de champion d'Italie pour seulement la troisième fois, environ 125 ans à peu près. Et aujourd'hui, à midi, si vous avez rien à faire, là, mais vous allez dans la petite Italie. Vous allez dans un café italien, là, il y en a plusieurs sur dans la petite Italie. Vous allez demander, est-ce que vous passez le match Napoli-Fiorentina? À midi, ça passe, là, ils ont les chaînes probablement, que ce soit en italien ou pas. Ça va être un match très spécial parce que quand ils ont été champions, Naples, cette semaine, ça se passait du côté du nord de l'Italie à Udinese. Et aujourd'hui, ils reçoivent dans le sud, à Naples, mesdames et messieurs, la Fiorentina. Et Fiorentina, c'est pas une équipe dégueulasse non plus, c'est une équipe qui joue bien au ballon. Alors, on va voir les légendes de Napoli. C'est un match que je ne manquerai pas si j'étais vous. Maintenant, on en parle de Naples. Voyez, vous sentez ma passion. Pas de niaisage ici. Hein? On va pas niaiser avec Naples. On n'est pas là pour niaiser. Naples, qui ont été les champions cette année? On a Victor Osimhen, attaquant international du Nigeria. Oui! qui a raté la Coupe du Monde, malheureusement. Âgé de 24 ans, il vaut, ça c'est là, sa valeur sur le marché, là. Il vaut 100 millions d'euros. Naples l'a payé beaucoup moins cher que ça. Vous allez voir tantôt, je vais en parler, là. Naples a fait un recrutement très spécial. C'est le meilleur buteur cette année avec 22 buts. C'est le numéro 1, non seulement de Naples, mais de toute la Ligue avec 22 buts et il a 4 passes également. Kvaratskhelia, légende déjà à son jeune âge. 10 passes, c'est le meilleur passeur de tout le championnat italien. Il a également 12 buts. C'est le playmaker de cette équipe-là et il vient d'arriver pour une poignée d'euros. OK? Ils l'ont pas payé cher. Ils l'ont acheté 10 millions d'euros du Dynamo Batumi de la Géorgie, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, il en vaut 85 millions d'euros. Et ça, c'est ce qu'il vaut. Mais vous comprendrez que quand il y a des joueurs comme ça, il n'y en a pas énormément. Donc quand il vaut ça, ça veut dire qu'il va avoir des clubs qui vont dépenser beaucoup plus pour se procurer les services de ce joueur-là. Ça a été un recrutement incroyable du côté du Napoli cette saison. Ils ont également recruté Min-jae Kim, le défenseur central de la Corée du Sud, mesdames et messieurs. Ils l'ont payé très peu. Et aujourd'hui, il vaut plus de 50 millions d'euros. Ces deux additions-là, Kvaratskhelia et Min-jae Kim, ont été exceptionnelles. Et je crois que cette année, le Napoli FC, compte tenu de qui est parti l'année dernière et de qui est arrivé, c'est le meilleur recrutement d'Europe cette année. Parce qu'il faut le rappeler, on a un certain Lorenzo Insigne qui joue aujourd'hui au TFC, à Toronto FC. Insigne, c'est un champion européen avec l'Italie. C'est un gars de Naples, de la région. Un vrai Napolitain. Il a été à Naples pendant très longtemps. Il n'a pas été champion d'Italie avec eux, mais il a gagné quelques coupes. Il est parti. Kalidou Koulibaly, mesdames et messieurs, Kalidou Koulibaly, il est parti à Chelsea. Défenseur central adoré à Naples. Un des meilleurs joueurs qui a joué pour cette équipe-là. Parti. Driss Mertens. Ben, il est parti, Driss Mertens. Il est plus là. Right? Il y a plus de Driss Mertens. Il a quitté.
Hey! Sac ton camp sur mon terrain!
Et Driss Mertens était né, tout simplement, le meilleur buteur de l'histoire de Naples. Et donc, moi, quand j'ai fait une émission à CFAQ l'année dernière, j'avais dit que Naples, ça va être difficile. Vous m'auriez demandé qui était champion cette année en Italie. J'aurais mis l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juventus devant Naples et peut-être même la Lazio. Ils ont surpris tout le monde, notamment, principalement, avec leurs joueurs géorgiens, Kvaratskhelia, qui est aujourd'hui un des meilleurs joueurs au monde. Ça va de soi que c'est pas le niveau pour avoir un ballon d'or, parce que là, on sait que c'est pas dans la même catégorie que Haaland, que Benzema, que Messi, champion du monde. Je dis bien champion du monde, et même au PSG, c'est pas dégueulasse cette année, là. Mais ça a été un joueur exceptionnel et donc félicitations à Napoli de l'avoir recruté. Également dans cette équipe, joueur important, Piotr Zielinski, polonais, milieu de terrain. Franck Zambo Anguissa, camerounais, milieu de terrain. Stanislav Lobotka, milieu défensif. Giacomo Raspadori, attaquant. Irving Lozano, le Mexicain, l'ailier. Elmas, milieu de terrain, Di Lorenzo, le latéral droit, Rahmani, l'Albanais, défenseur central, Tanguy Ndombele, le milieu de terrain, Politano, l'ailier, Alex Meret, le gardien de but titulaire de l'équipe nationale italienne, mesdames et messieurs, Mathias Oliveira, latéral gauche, 25 ans, et Giovanni Simeone, le fils d'un certain Cholo Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Et oui, son fils, il joue à Naples. Il joue pas souvent puisque il y a du monde devant lui, comme on dit, notamment avec Victor Osimhen. Rui, le Portugais également a été très important à cette équipe italienne de Naples. Donc, félicitations à Naples. Et là, On va voir l'entraîneur, je l'ai pas nommé, c'est Luciano Spalletti. C'est un entraîneur qui avait jamais gagné le titre de champion d'Italie. Il avait fait du très bon travail avec l'AS Roma. Il avait permis à l'AS Roma de gagner certains titres de Coupe d'Italie. Il a été champion au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie quelques années avec le Zénith. Mais c'est ça. Donc c'est son premier titre de champion italien et puis c'est quelqu'un là de très charismatique, c'est quelqu'un qui se fait respecter là, il y a vraiment aussi c'est quelqu'un de très élégant, très classe. Et donc félicitations à lui, félicitations à Napoli, champion d'Italie pour la troisième fois, mesdames et messieurs. Società Sportiva de Calcio de Napoli, SSC Napoli, Società Sportiva de Calcio de Napoli. Et cette semaine, à Universitaire en Action, on est en amour avec Naples et le sud de l'Italie. Et donc, on va y aller pour les féliciter avec une chanson venue directement de Naples. Ma quale dieta de Luca Il Sole de Notte. On écoute ça et on revient. Vous écoutez Universitaire en Action à CISM.
Sa come il geramadino, un cornetto e cappuccino, una zuppa e latta quantità. Soppina lava me, ma che tenga vere, si può che sti pupette mi mangia come frugioi. Fritta caramella sopra me, ma quale dieta, mi piace nel polpetto, mi piace la cotoletta, a ci mangiate quattro, venga a farmi il son che sette, con sole e notte, bustate a casa vostra, dammatemi la festa, una mezz'ora e stiamo a posto. Rodino, portami una pizza, ti alla sì,
sta bene,
quanto facciamo tempo? Se vuoi come pesa, come grida la bilancia, quando a volte poi ci salto su. Ma vacanza, pure si tenga panza, meglio non mi sostanza, castacchina con me a te. Ma guarda dieta, mi piace nel pulpetto, mi piace la cotoletta, a ci mangiate quattro, tenga fa me son che sette. Come on, man. Come on, baby. I'm moving. fête, me viens à Godolette. Adieu, magna des quattes, d'enga, va mes son guessette. Cousou les notes, ou stade à casa voste. Chamade me va veste, na maison reste ma poste.
Să mă ne-a dublu viată, că ai,
așa.
No, nu fac un Ivovici, uia.
De retour à Universitaire en action sur les ondes de CSM 89,3 FM, la plus grande radio universitaire francophone au monde. Donc, Wissam Bensa avec vous pour encore une demi-heure. On vient d'entendre Ma quale dieta de Luca il Sole di Notte. C'est une chanson napolitaine à 100%. Et d'ailleurs, ça a été la chanson chantée peut-être la plus souvent par les joueurs italiens dans leur victoire à l'Euro 2020, entre guillemets 2021. Il y avait certains joueurs, notamment Lorenzo Insigne, le charismatique. C'est un des leaders de cette équipe-là. Napolitain, lui, qui a amené cette chanson-là. Et si je ne me trompe pas, c'est en napolitain, cette chanson-là. Donc, c'est un peu plus difficile à comprendre que, par exemple, l'italien traditionnel. D'ailleurs, le Naples, ils ont un dialecte bien à eux particulier. Puis je regardais une émission là sur YouTube. C'était un joueur, je me rappelle plus lequel, un joueur du nord de l'Italie, qui discutait avec Lorenzo Insigne de Naples, et Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio, lui aussi c'est un napolitain. Il faisait un jeu, il était en train de lui lire des expressions en napolitain, puis le joueur devait deviner qu'est-ce que ça voulait dire, puis c'était pas facile, là. Il y en avait certaines expressions qu'il savait pas. Et puis je m'en rappelle, puisque quand j'avais regardé le film Gomorra, je me rappelle très bien que j'ai une facilité quand même pour les langues, l'italien, je peux le comprendre un peu, mais c'était très différent, puis c'était compliqué. C'est d'ailleurs une excellente série, probablement la meilleure que j'ai vue, la Gomorra, si jamais vous voulez regarder une belle série italienne de Naples, là, qui vient de Naples, là, je vous recommande vraiment de regarder ça. Donc maintenant, on va y aller avec le CF Montréal, mesdames et messieurs, puisque le CF Montréal était en action hier au Stade Saputo, et j'étais présent comme chaque match local, et puis ils ont bien fait ça. Ils ont très bien fait ça contre Orlando, qui est une équipe qui joue un peu... ça joue rough, Orlando, honnêtement. Et puis, ils ont bien fait les choses, le CF Montréal, puisqu'ils ont gagné 2-0 avec un but contre son camp, mais ça a été un tir de Herrera, Aaron Herrera, qui a fait une frappe qui a été déviée par le capitaine du Orlando CCFC. Et donc, ça faisait 1-0. Ça, c'était en deuxième mi-temps. Et également, après ça, il y a un certain Rommel Kyoto, qui est entré et qui a tout changé après 5-6 minutes de son entrée. Il a marqué le deuxième but. Ça faisait 2-0 pour le CF Montréal. Et je vous avais dit à cette émission-là que je ne m'inquiétais pas pour le CF Montréal jusqu'au jour où on allait terminer le mois de mai. Puisque quand tu commences ta saison à l'extérieur avec 5-6 matchs à l'extérieur, que tu joues contre des bonnes équipes, que tu joues pas dans ton propre stade à cause de la température québécoise, eh bien, il faut s'attendre à avoir des matchs un peu plus difficiles. Et là, ça fait 4 matchs qu'on joue. On a encaissé aucun but. On a gagné les 4. Les 4, là. On a battu en championnat canadien Yvon FC. On a battu les New York Red Bulls. Là, on bat Orlando, et puis on a également battu Sporting Kansas City, chez eux d'ailleurs. Et dans nos 5 derniers matchs, on a encaissé un but en 5 matchs. Et donc, il n'y avait jamais vraiment de crise côté CF Montréal. D'ailleurs, quand j'avais demandé à l'entraîneur, conférence de presse, est-ce que vous avez toujours votre vestiaire est avec vous, il avait répondu oui. À l'époque, on aurait pu penser que c'était non. Là, les résultats ont suivi. C'est sûr que c'est pas comme avec Wilfried Nancy au niveau du jeu, mais beaucoup de joueurs sont partis, d'autres sont arrivés, d'autres sont blessés. Et bonne nouvelle pour hier, Lassila Palainen, notre piston finlandais, Eh bien, il n'est plus blessé, il a pu jouer, et surtout Romelu Lukaku, ça fait une différence. Puisque Chinonso Okafor, qui était notre attaquant numéro 9, là, c'est quelqu'un qui est très bon dans les duels, dans les airs, tout ça, mais niveau technique, là, c'est-à-dire que c'est pas du tout comme Romelu Lukaku, là. Romelu Lukaku, tu peux lui envoyer des ballons en profondeur, il va courir, il va pouvoir dribbler. Chinonso Okafor, c'est un peu moins ça. C'est quelqu'un qui va gagner des ballons dans les airs, qui va être bon avec son corps, des remises de la tête également, garder le ballon dos au but pour après ça le redonner à ses partenaires pour créer de l'espace. Ça, c'est très utile, il fait bien ça. Mais niveau technique, là, c'est pas ça. Puis hier, on l'a vu. Mais malgré ça, c'est un joueur qui se donne à 100%. Et je pense qu'Hernan Lozada et les joueurs du CF Montréal apprécient beaucoup son travail. Donc, puis hier, Chinonso Okafor, là, les deux défenseurs centraux de Orlando City, là, c'est pas des deux de pique non plus, là, c'est des joueurs très extrêmement costaud, là, notamment le capitaine. Il a eu de la difficulté hier, Chinonso Okafor, parce qu'il était bien pris. Et puis d'un côté comme de l'autre, il y avait des fautes. Bon, les joueurs étaient pas d'accord, ça chialait beaucoup. C'était très physique et rugueux entre les deux joueurs, là. Le défenseur du Orlando City s'appelle Robin Jansen. Et puis Antonio Carlos, là, c'est pas des Joaquin Torres, là. C'est grand costaud. Côté Orlando City FC, pas vraiment de joueurs très connus. Facundo Torres, bon, un milieu de terrain de l'Uruguay qui joue à Peñarol avant. C'est un bon petit joueur, mais hier, ça a été un peu plus difficile. Sinon, ils ont Erkan Kara, l'attaquant autrichien, qui est leur numéro 9. Lui qui a déjà joué avec l'Austria Vienna. Mais sinon, c'est pas une équipe très très forte. C'est pas une équipe qui devrait aspirer à gagner le titre de MLS Cup. Ils ont également leur entraîneur, là, Oscar Pareja, qui entraîne quand même. C'était son 117e match là hier côté Orlando City. Il a entraîné également FC Dallas et Tijuana au Mexique, donc c'est quand même un entraîneur respecté et respectable. Côté CF Montréal, Aaron Herrera, ça a été selon moi le joueur du match puisqu'il a fait la passe sur le but de Romelu Lukaku, puis sur le premier but, c'est lui, c'est sa frappe qui fait en sorte que ça devient un but contre son camp, et donc il a été homme du match pour moi. Romelu Lukaku également, son entrée a été incroyable. Wanyama a bien joué, la défense centrale à trois avec Gabriele Corbo de Napoli en passant, Rudy Camacho et Joel Waterman avec Jonathan Sirois toujours, là, qui fait quand même des bonnes choses. Donc, félicitations au CF Montréal. C'était le match hier de la victoire de 2-0 contre Orlando City. Le prochain match, si je vous disais que la même semaine, on joue deux fois contre notre plus grand rival, est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Est-ce que vous me croiriez? Et c'est le cas. Parce que le 9 mai, le CF Montréal se déplace du côté de Toronto FC pour un match unique de quart de finale du championnat canadien. Et samedi prochain, le 13 mai, à 7h30, le CF Montréal reçoit le Toronto FC. Et donc, ça sera un match très important. Là, ça peut être encore vraiment, là, si on est capable d'aller chercher une victoire en championnat canadien contre Toronto FC et ensuite les battre en championnat, ça serait vraiment un point tournant incroyable dans la saison. Mais je crois que Hernan Lozada fait du bon boulot et qu'ils sont entre bonnes mains, et que la direction du CF Montréal au niveau du jeu, au niveau des résultats, au niveau de l'esprit de groupe, ça se sent, là. C'est-à-dire que quand ils ont marqué des buts, quand Kyoto a marqué, tout le monde s'est rué vers lui, les joueurs, les remplaçants, tout le monde était content. Herrera, c'était pareil. Puis donc, ça fait bien de voir ça au Stade Saputo. Le stade qui était pas, c'était pas sale comble hier, mais c'était pas loin. On va écouter maintenant en entrevue, les deux joueurs, on va écouter Rudy Camacho et l'entraîneur Hernan Lozada, et on revient.
On ne va pas oublier que Orlando, c'est une très bonne équipe. Toujours contre une équipe qui, à l'extérieur, avant ce match-là, ne sont pas perdus. C'était la meilleure équipe à l'extérieur. Donc, quand les choses ne vont pas comme on se peut, ce n'est pas parce qu'on joue mal ou on joue mauvais. Les autres équipes, il y a aussi des qualités. Donc, c'était un match pareil parce que Jonathan il a fait pas de grosses abêtes. Je pense qu'avec les changements, après une heure de jeu, on a été meilleur, avec plus de confiance. Chacun dans son bon poste, dans le même moment, on a mis la pression dans le bon moment, on a réussi bien les blocs et on était bien organisé. C'est un match difficile, Orlando c'est toujours un match difficile, donc je suis très content, pas seulement avec la victoire aussi parce que c'est la troisième fois, quatrième si tu comptes les matchs de coupe qu'on peut garder les 0, ça donne aussi la confiance à tous la défense, notre gardien. Donc il y a beaucoup de choses positives et je suis très content parce qu'ici à la maison on veut vraiment créer un esprit de pas seulement de jouer bien mais aussi de dire à la maison c'est impossible pour chaque équipe qui vient ici ça va être impossible de prendre points. Ça donne aussi une connexion avec notre partisan, notre supporter que aujourd'hui ce soir ça a été formidable. Tous les matchs sont restés derrière nous, donc c'est un autre pas par l'avant.
Bonsoir Rudy, félicitations pour votre victoire. Vous avez encaissé seulement un but à vos 5 derniers matchs. Qu'est-ce qui a changé dans votre dynamique de groupe?
Moi, comme je disais, on avait un problème collectif au début. C'était pas que la défense. Après, individuellement, on n'était pas bon au début et ça se sent assez collectivement. Je dis qu'il fallait nous laisser du temps. Et vraiment, on a beaucoup travaillé défensivement avec le staff ces derniers temps. Beaucoup défensivement, donc ça se ressent et ça part de nos attaquants. Et ils nous enlèvent un peu de travail derrière, donc c'est bien, on continue comme ça.
Bonsoir Rudy, félicitations pour la victoire. Tu as vu dans cette première minute compliquée où Orlando arrivait à transpercer les lignes, surtout au milieu de terrain. Qu'est-ce qui a changé en deuxième mi-temps? Quel est le changement tactique, surtout au milieu de terrain, pour empêcher cette première relance?
Il faudrait prendre le 7 en premier. On était à 2 sur Gabi. Donc c'était un peu. Il était entre 2 Gabi à chaque fois et Victor il était un peu trop loin pour le prendre. Donc on a modifié ça en deuxième mi-temps. Et voilà, on avait aussi beaucoup plus le ballon, donc c'était un peu mieux. Après, c'est vrai qu'en première, on a eu un peu de mal. C'est du coup pas bon. Donc c'est bien, on garde le 0, mais on voit un peu plus ce qui se passe.
Je suis un peu chiant. Mais...
Ça va venir avec le temps, je crois.
Voilà, donc c'était Rudy Camacho et l'entraîneur Hernan Lozada qui sont satisfaits de leur performance, bien entendu. On a vu, c'était Victor Wanyama, le capitaine et seul joueur désigné du club, qui est rentré durant la conférence de presse. Là, je sais pas où est-ce qu'il allait. Il est peut-être sorti par la mauvaise porte, parce qu'après ça, il a repris une autre porte par la suite, puis il avait dit à la blague, là, Rudy Camacho. Rudy Camacho lui avait dit s'il y avait des questions, puis là, il lui a dit « Player of the match, Rudy Camacho ». Donc, c'est ça, une petite blague entre joueur d'expérience du club du CF Montréal. Donc maintenant, on va faire une autre petite pause et après ça, on va revenir avec un petit résumé de la Coupe du Roi, les matchs à venir, les scores en direct. Et on s'en va écouter Debbie Friday, Good and Evil. Vous écoutez Universitaire en action sur les ondes de CISM. We'll be right back. Voilà, donc c'était Good and Evil de The Beef Friday, une chanson qui réveille pas mal ce matin. En ce dimanche matin, d'ailleurs, dimanche matin 7 mai, on annonce aujourd'hui un maximum de 22 degrés et ça devrait être pas mal similaire comme ça là, jusqu'à dimanche prochain, mis à part la journée de vendredi où est-ce qu'on annonce un peu de pluie. Donc voilà, le vrai printemps slash été montréalais est débarqué. Il arrive, puis cet été, ça va être un bon été. Donc voilà. Maintenant, on termine l'émission. On va vous parler de la Coupe du Roi. La Coupe du Roi, mesdames et messieurs, c'est la Coupe espagnole qui, en fait, c'est le gagnant des coupes. Là, c'est la Coupe qui est ouverte à plusieurs divisions inférieures de la Ligue espagnole. Donc, c'est un tournoi qui a débuté en 1903. Ça fait plus de 120 ans déjà. Il a eu toutes ces années, il a eu des finales. Il a eu lieu, pardon, sauf en 1938 à cause de la guerre civile espagnole. Messi a le record du plus grand nombre de buts en finale avec 9. Et hier, le Real Madrid l'a emporté avec 2 buts de Rodrigo, mesdames et messieurs. Avec Rodrigo, qui est un joueur brésilien, un ailier qui joue avec le Real Madrid. Là, c'est le compagnon de Benzema et Vinicius. Et c'est un joueur qui marque souvent des buts importants. Puis hier, encore une fois, il a marqué à la deuxième mi-temps, à la deuxième minute en première mi-temps et en fin de deuxième mi-temps. L'Osasuna Pampeluna avait égalisé. Ils avaient fait 1-1, mais le Real Madrid est revenu. Puis on sait, là, le Real Madrid était largement favori, mais reste que c'était 1-1. Pas mal vers la fin du match, là, environ jusqu'à la 70e minute. Osasuna, c'est une équipe du Pays Basque espagnol. Et Osasuna, ça veut dire en basque ou en euskara, ça veut dire santé. Et donc, c'est la seule équipe de la Ligue espagnole qui a un nom en basque. C'est quand même intéressant, j'ai appris ça hier. Mis à part ça, eh bien, Osasuna, ils ont perdu. Et c'est le 20e titre pour le Real Madrid, c'est leur 20e titre, mais évidemment, c'est pas l'équipe qui a gagné le plus de titres là côté Coupe du Roi, c'est Barcelone qui en a gagné beaucoup plus et ça m'a vraiment étonné parce que je m'attendais à ce que le Real Madrid soit le plus grand vainqueur de la Coupe du Roi espagnole, puisqu'on sait en plus le Real Madrid, ça veut dire Royal Madrid. Ça veut pas dire c'est une équipe qui est attachée à la royauté espagnole, qui est très attachée à au pays de l'Espagne. Et ça m'a surpris que ça ne soit pas l'équipe la plus titrée, parce que quand on regarde ça, le FC Barcelone a 31 titres et ensuite de ça c'est Bilbao, Athletic Bilbao avec 23 et après ça c'est le Real Madrid avec 20 et ensuite l'Atlético Madrid en a 10. Et puis en termes de championnat, le Real Madrid c'est l'équipe la plus championne d'Espagne, ça oui, mais là où est-ce que ça fait vraiment une différence pour le Real Madrid, c'est dans les compétitions européennes. Là, je crois qu'ils en sont à 15 titres de Ligue des champions européens et donc ça fait plaisir à voir pour le Real Madrid qui remporte un trophée cette année. Ils avaient battu déjà le FC Barcelone 4-0 au match retour au Camp Nou en Catalogne. Et donc, à cause de ça, ils ont pu accéder à la finale puisqu'ils avaient perdu le premier match 1-0 à domicile à Madrid. Et comme ils ont battu 4-0 le FC Barcelone chez eux, eh bien, ça fait en sorte qu'ils se sont qualifiés pour la finale. Puis là, ben, Osasuna, il fallait que tous les astres soient alignés et que tout soit parfait pour qu'ils puissent gagner. Ils ont pas été très loin, ils ont pas été ridicules, mais en bout de ligne, on sait, là, le Real Madrid, c'est un rouleau compresseur. Donc, voilà pour la Coupe du Roi. On a un vainqueur et donc cette Coupe du Roi-là, le gagnant, ça lui donne une place en Ligue Europa automatique. Et bien là, comme le Real Madrid l'a gagné, le Real Madrid sera qualifié en Ligue des Champions automatiquement. Ça fait en sorte que ça rajoute une place de plus dans la Ligue espagnole pour une Coupe européenne, ce qui est très intéressant, je trouve. Donc voilà, ça c'est côté Real Madrid, mesdames et messieurs, champions de Coupe du Roi. Maintenant, on va y aller avec les matchs à venir, avec ce dont on doit regarder aujourd'hui et les résultats à l'heure actuelle, chers auditeurs, chers auditrices. Mais pour faire ça, eh bien, je remets la chanson de Ma Qualedieta, parce que ça m'intéresse. L'hymne national de Napoli, pardon. Donc, aujourd'hui, 11h30, Newcastle-Arsenal. Arsenal qui se bat encore pour peut-être gagner le titre de champion d'Angleterre, mais ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. West Ham reçoit Manchester United. C'est à 2h cet après-midi. Napoli reçoit la Fiorentina à midi. À Naples, Campania, Italia, le sud, mesdames et messieurs, la mer, Méditerranée, la nourriture, Maradona, les plages, les restaurants, la chaleur humaine, l'ambiance, l'atmosphère, les gens, le soleil, Napoli. Regardez ce match-là si vous pouvez. Sinon, aujourd'hui, Rangers-Devils, c'est à 3h30. On parle de Ligue nationale de hockey, les playoffs. Panthers-Leafs, 6h30. Kraken de Seattle, Stars, 9h30. D'ailleurs, les Maple Leafs sont en train de perdre 2-0 contre les Panthers là en série, donc ça va pas très bien à l'heure actuelle. Basketball NBA, 76ers de Philadelphie, Boston Celtics, 3h30. Suns, Nuggets, 8h du soir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voilà, c'est dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et donc, Napoli, champion italien, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis, Luca il sole di notte, ma quale dieta, pour célébrer ce titre de champion italien. J'en reparle et j'en reparlerai. Jamais je ne m'arrêterai. On va vous donner les résultats à l'heure actuelle dans le monde du soccer international, mesdames et messieurs. Torino-Monza 0-0, Ajaccio-Toulouse 0-0, Auxerre-Clermont 1-0 Auxerre. Ensuite, Lorient-Brest 1-0 et Nantes perd à domicile 1-0 contre Strasbourg. Voilà. Nantes qui se bat pour la relégation, mesdames et messieurs. Ils se battent pour la relégation, puis s'ils perdent ce match-là à domicile, ça va brasser. Un but de Habib Diallo sur penalty. Mesdames et messieurs, et on va terminer le tout avec les résultats de la MLS hier, Major League Soccer, notre ligue, de notre équipe, le CF Montréal. CF Montréal Orlando 2-0, Charlotte 3, New York City FC 2, deux buts de Enzo Copetti, Cincinnati 2, DC United 1, Inter Miami 2, Atlanta 1. Red Bulls perd à domicile 1-0 contre Philadelphie avec un but de Daniel Gazdag, le Hongrois, sur penalty. San Jose bat Los Angeles FC 2-1. Denis Bouanga, international gabonais, mesdames et messieurs, a marqué. Houston, Salt Lake 0-0. Nashville 3, Chicago 0. LA Galaxy 1, Colorado 3. Avec notre ami Javier Hernandez, le Mexicain, Chicharito, qui n'a pas marqué. Portland 2, Austin 2, Vancouver 3, Minnesota 2, Vancouver invaincu en 8 matchs, mesdames et messieurs, en championnat. On célèbre le titre de Napoli. Anniversaire en action CISM, Montréal, Québec, Canada. Félicitations à Naples. Midi, Naples, Fiorentina. C'est ce qui met fin à cette émission de Anniversaire en action. Merci d'avoir été là. On se revoit dimanche prochain. CISM, 9h le matin. C'était Wissam Messer au microphone. Au revoir.